Le clivage, c'est bon, tout le monde tweet, filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h41, démarrage en vrombe de l'instant M.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Une presse indépendante.
Formation numérique.
Le nez sur l'écran.
Parole de femmes saoudiennes, celles-là même qui sont appelées aux urnes pour la première fois cette semaine. Une révolution sous le voile, passage en revue de fortes personnalités qui tiennent tête à la loi et aux préjugés. Bonjour Clarence Rodriguez.
Bonjour Sonia.
D'abord un livre, aujourd'hui un documentaire diffusé sur France 5. Vous vivez en Arabie Saoudite depuis 10 ans, alors comment filme-t-on ces femmes à qui le royaume wahhabite n'offre pas de vie publique? Comment leur tendre le micro quand la prise de parole médiatique s'avère lourdement censurée, voire auto-censurée? Sinon, on feuillette l'actu et on retrouve Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
La COP21 vous a ramené dans le droit chemin, mon fils. C'est une bonne chose. Je suis bien contente de démarrer la semaine avec vous et d'entamer cette nouvelle Oh là là, et de... Bref, hashtag Instant M.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
On va se roder, ça ira mieux vendredi.
Semaine, c'est pas dur à dire quand même.
Non, bah semaine, voilà. Avec vous, tous ensemble. Bref, c'était un message de bienvenue. Allez, in extremis, l'Assemblée nationale a voté vendredi l'amnistie fiscale des sites d'info Mediapart et Arrêt sur Image, à qui le fisc réclame d'énormes arriérés. Rappelons que ces médias s'étaient auto-appliqués dès 2008, une TVA à 2,1% au lieu de 19%, anticipant un changement législatif qu'ils n'ont obtenu qu'en 2014. Alors, le Sénat doit encore voter cet amendement auquel le gouvernement s'oppose. Le texte n'est donc pas au bout de son parcours législatif. Oui, vous êtes toujours sur France Inter. Le groupe Énergie est-il à vendre? Le bruit circule depuis quelques semaines. Le Figaro met les pieds dans le plat. Ce matin, Jean-Paul Baudecroux, fondateur et propriétaire à 77%, reprend en main personnellement sa chaîne Énergie 12, qui est un naufrage, et ce, pour mieux valoriser ses actifs. Énergie 12 et Chérie 25 côté télé, Énergie, Chérie FM, Rire et Chanson et Nostalgie côté radio. Le Figaro table sur une valorisation d'un petit milliard d'euros. Allez, Bruno Donnet, toute la semaine, COP21 oblige, vous avez regardé comment la télévision s'intéressait à l'environnement et ce matin, vous êtes vert.
Oui, alors de rage Sonia, hein, parce que j'ai trouvé que la télé s'y prenait mal, très mal. Pour tout vous dire, je suis parti d'une question. Je me suis demandé si la télévision avait une part de responsabilité ou pas dans le fait que nous avons très majoritairement une faible conscience environnementale. Je me suis posé cette question car nous savons tous que si nous ne limitons pas le réchauffement climatique, les conséquences seront désastreuses et pourtant, nous considérons que c'est un problème politique, que c'est aux grands de ce monde de s'y coller, pas à nous. Du coup, j'ai bien regardé et je crois que j'ai trouvé. En fait, le problème, c'est que la télévision applique au traitement de l'environnement des codes qui ne sont pas les bons. Pour essayer de nous intéresser à la planète, elle nous fait danse avec les stars, elle fait appel à des vedettes en pensant qu'elles seules réussiront à nous sensibiliser. Et ces stars, eh bien, elles sont deux. Il y a Nicolas Hulot qui s'occupe des mots et qui passe à 20h.
Il y a un moment ou un autre, on sera assis à la table des conséquences.
Voilà, là t'es bien avancé. Et il y a Artus Bertrand qui s'occupe des images et qui lui passe en prime time.
Le monde sauvage est aux mains des hommes. Sous la marche de la civilisation, la nature a reculé. On tolère son existence.
Ouh, alors là, t'as les jetons, hein. Du reste, en voyant son film, c'est en voyant son film mardi dernier que j'ai compris que la télévision avait un problème. En somme, elle fait les choses à l'envers. Pourquoi? Eh bien, parce que juste après le documentaire de Yann Arthus Bertrand, dans lequel on a absolument rien appris, France 2 avait programmé un autre reportage, hyper intéressant cette fois-ci, une expérience filmée en caméra subjective par un jeune journaliste épatant, Donatien Lemaître, c'est son nom, qui s'est filmé pendant 6 mois et dont le but était de ne plus rien jeter dans sa poubelle.
Je vais me livrer à une expérience radicale et me filmer comme un rat de laboratoire. L'objectif, produire chez soi le moins de détritus possible, qu'il soit recyclable ou pas.
Voilà, alors Donatien Lemaître, c'est pas Yann Arthus Bertrand, hein, personne ne le connaît, et pourtant, en regardant ce reportage, on a immédiatement envie de faire comme lui. On a envie de faire maigrir sa poubelle pour limiter l'incinération et donc pour réduire le réchauffement. On s'aperçoit, parce qu'il nous ressemble et qu'il le fait, qu'on pourrait tout à fait, nous aussi, faire un tas de trucs très simples pour réduire nos déchets, mais on s'aperçoit que c'est difficile, très difficile, d'adopter des comportements vertueux.
Je fais des kilomètres en vélo pour aller à la déchetterie et sauver deux poils à frire de l'incinération.
Bref, on touche du doigt que si tous les citoyens, tous les petits décidaient de faire comme Donatien, les hommes politiques seraient bien obligés de s'intéresser à l'environnement. Or, la télé passe sa vie à croire et à montrer que ce sont les grands qui sont les seuls capables d'influencer les petits. Alors oui, Sonia, la télévision ne sait pas comment s'y prendre pour défendre l'environnement parce qu'elle est comme tout le monde. Elle s'en fout.
Bah ouais, elle veut faire de l'audience. Je suis pas sûre que je vous prenne comme directeur des programmes d'une grande chaîne, mon cher Bruno Donnet. Donatien Lemaître en prime time. Et pourquoi pas, la prochaine fois, à lundi.
L'instant M avec Sonia De Villers.
À cette époque, on disait que les femmes étaient très heureuses, que les femmes étaient des reines dans leur maison. Non, nous ne sommes pas des reines dans nos foyers, parce que pour être une reine, il y a un prix à payer. Vous devez rester dans cette cage dorée. Mais nous ne voulons pas de cette cage dorée. Nous voulons notre liberté, faire des choix dans nos vies, avoir la liberté de nous exprimer, obtenir des droits.
Clarence Rodriguez, 10 ans que vous êtes accréditée au royaume wahhabite. Qu'est-ce que ça veut dire d'être accréditée au royaume wahhabite ?
Ça veut dire qu'on laisse la possibilité donc de travailler en tant que journaliste française.
Et qui est le « on » ?
Le « on », c'est... Le 11, c'est le ministère saoudien des informations, de la culture et de l'information, absolument.
Alors, vous avez tourné ce film qui est diffusé demain soir sur France 5 à 21h40. C'est Paroles de femmes saoudiennes. On vient d'entendre Madia, très très beau personnage.
Très grande dame.
Ouais, une très grande dame, hein, une soixantaine d'années. Elle est photographe.
C'est une militante de la première heure. C'est une femme qui force vraiment le respect. Et j'ai une profonde affection pour cette femme, mais comme pour toutes les autres, mais elle particulièrement.
Parce Est-ce que vous portez le voile quand vous allez à la rencontre de ces femmes, quand vous travaillez là-bas et quand vous tournez, Clarence Rodriguez ?
Non, je ne porte jamais le voile. Mm-hmm. Avant même d'être arrivée en Arabie Saoudite, je portais le chapeau. Donc c'est un peu French Touch.
Que vous avez là,
oui,
d'ailleurs.
Oui, absolument, absolument.
Hein, venez nous regarder là sur franceinter.fr, vous allez voir Clarence Rodriguez avec son chapeau très chic.
Ouais, non, je porte toujours le chapeau. Donc pour moi, le voile, si vous voulez, s'imposait pas, ne s'imposait pas. Et on n'a jamais, si vous voulez, fait la moindre réflexion. Je n'ai jamais essuyé le moindre commentaire à l'égard de mon chapeau. Et puis je vais vous dire, le chapeau, c'est vraiment, j'oublie même que je porte parfois un chapeau.
Alors vous êtes correspondante pour tout un tas de médias francophones, oui. Depuis l'Arabie Saoudite. On vous entend régulièrement sur les antennes des RFI et de Radio France, entre autres. Vous arrivez donc, il y a une montée de l'islam dans les années 70. Oui. Aujourd'hui, on sait que c'est la charia qui codifie chaque aspect de la vie quotidienne au royaume wahhabite. Tout ça se conjugue avec des traditions culturelles très fortes, une société patriarcale encore extrêmement structurée et présente. Comment avez-vous procédé pour faire parler ces femmes à visage découvert devant votre caméra, Clarence Rodriguez ?
Bah écoutez, bon, vous l'avez dit, ça fait 10 ans que je suis là-bas. L'idée de réaliser ce documentaire avec Bernard Cazdepatte, qui est avec moi, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce sont des personnes que l'on approche et on s'apprivoise, si vous voulez, mutuellement. C'est pas parce que je suis journaliste que je vais leur dire, ben voilà, j'ai envie de réaliser un documentaire, de la même façon que j'ai fait pour mon livre l'année dernière.
Il y a eu un premier livre, par nos éditions
absolument.
First l'année dernière.
On s'est, si vous voulez, approcher, on s'est senti. Parce que vous savez, que ce soit les Saoudiens ou les Saoudiennes, il faut être à leur côté, il faut les toucher. Voyez, et il y a un contact humain qui est très profond. Et j'ai eu cette chance, en fait, d'être, acceptée, parce que je ne les ai pas trahis.
Il vous faut demander une autorisation de tournage ?
Alors, pour le documentaire, nous avions effectué une demande et une démarche. Cette accréditation, en fait, on l'a obtenue 2 jours avant la fin du tournage.
C'est-à-dire que vous avez tourné sans autorisation.
Oui, je l'avoue, absolument, parce que, écoutez, ça fait partie des risques que l'on peut prendre. Et puis, on n'est pas mécontent, je veux dire. Alors, c'est pour ça.
Et si pour les femmes qui témoignent, c'est un risque également.
Elles acceptent. Mais alors, vous savez, ce sont les femmes et ce sont surtout les tuteurs, c'est-à-dire le mari, le père ou un membre de la famille. N'oublions pas que ces femmes sont inféodées à un tuteur. Ce sont eux qui prennent les risques. Comme vous le verrez dans le film demain, vous savez, le mari de Madia, qui lui...
C'est lui qui l'a laissé conduire.
Exactement.
Parce qu'il est légalement responsable de ses actes.
Exactement, il est responsable de ses actes, mais donc il est responsable des actes de Madia. En 1990, lorsqu'en 47 femmes ont pris le volant, eh bien ce sont leurs maris qui ont été... pratiquement répudiés.
Donc ce sont leurs tuteurs qui les ont autorisés à être aujourd'hui, à se présenter devant votre caméra.
Exactement, de la même façon qu'elles l'ont fait pour le livre. Et en plus, vraiment, elles sont courageuses, parce qu'elles ne m'ont même pas demandé un anonymat. Mm-hmm. Ce sont leurs noms. Et elles sont à visage découvert. Mm-hmm. Comme vous parliez de Madia, se présente devant nos caméras. Sans abaya,
ouais.
Et sans voile.
Et sans voile.
Vous voyez, et je voudrais insister là-dessus, c'est qu'en
Arabie Saoudite,
l'abaya, c'est cette robe oui. longue, noire et austère mm-hmm. que l'on porte. Mais vous voyez, en Arabie Saoudite, on pense que les Saoudiennes veulent absolument porter. Alors, je parle, attention, d'une frange de Saoudiennes. Là, celles dont on parle, ce sont des femmes qui ont envie de faire bouger les lignes. Il y en a d'autres, les conservatrices, elles m'ont rabroué, elles n'ont pas souhaité que je les interviewe. Donc là, je parle du verre à moitié plein, j'ai envie de dire, de ces
oui,
femmes
absolument.
Qui veulent faire avancer les choses, qui veulent faire bouger.
Qui sont toutes issues de l'élite
Pas toutes. Non, pas toutes. Ce sont des femmes qui ont bénéficié. Non, il ne faut pas penser mm-hmm. que, si vous voulez, le documentaire, ce sont uniquement les femmes, entre guillemets, bourgeoisie saoudienne. Pas du tout. Vous avez des femmes, c'est parce qu'elles ont bénéficié de la bourse Abdallah, mm-hmm. qui a été présentée dès 2005, parce que, mine de rien, le roi, le souverain feu Abdallah, a beaucoup fait pour les femmes. Vous savez, quand on a parlé de Christine Lagarde, mm-hmm. ça a été un peu maladroit, parce que ce n'était pas le jour de le dire. Quand elle a dit « le roi Abdallah fait beaucoup pour ses femmes », eh bien moi, force est de constater, depuis 10 ans que je suis là-bas, qu'il a fait avancer les choses.
Ce que vous racontez, hein, 2011, pour éviter la contamination du printemps arabe en Arabie Saoudite, oui. il fait entrer 30 femmes à la Shura, qui est cette chambre législative qui rédige les projets de loi pour le royaume.
Absolument, Sonia. Et en plus, chaque fois qu'il y a une avancée du côté des Saoudiennes, on dit « oui, mais c'est homéopathique », etc. Mais il faut voir d'où elles viennent, ces femmes-là. Elles avancent lentement. Franchement, je le dis très souvent, je le répète. Mais elles avancent à leur rythme. C'est pas à l'aune de nous-mêmes.
Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles qui, après une vaste et profonde dépression nerveuse, s'est reprise en main à travers le sport et a créé un premier club de sport féminin.
Dans le discours des opposants au sport féminin, des arguments d'un autre temps. Pour eux, le sport perturberait le cycle menstruel, entraverait la fertilité des femmes et les influencerait vers la corruption et la débauche.
Oui, vous devez avoir beaucoup d'énergie et de patience pour pouvoir continuer dans le secteur du sport en Arabie Saoudite. Mais je pense honnêtement que si nous cessons de vouloir changer notre condition, nous allons rester des numéros. Et je ne veux pas être juste un numéro. Je ne veux pas de cela pour mes enfants non plus.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on sent à quel point la médiatisation de leur cause et de ce qu'elles défendent est extrêmement important. Et que cette femme, en promouvant le sport féminin, s'est retrouvée en butte avec les éditorialistes, avec la presse locale, Clarence Rodriguez.
Oui, mais elle n'a pas baissé les bras pour autant. Mm-hmm. C'est une femme, vous voyez, ça fait partie de cette pugnacité qui anime toutes ces femmes. Mais également, il faut préciser que derrière ces femmes comme Lina, qu'on vient d'entendre, il y a un homme. C'est son mari. Avant, c'était son père qui les ont aidés.
Et on sent le poids de l'image, on sent le poids de la une de presse, des premières photos qui ont été publiées.
Elle nous les montre, effectivement. Hein, absolument. Elle nous montre ces images. Et effectivement, parce que l'Arabie Saoudite, c'est peut-être un pléonasme, mais est profondément conservateur et conservatrice. Donc du coup, il n'y a pas de place pour les femmes.
De la même manière que cette campagne de pub que promeut une princesse saoudienne.
Princesse Bandéry.
Pour dénoncer les violences conjugales. Campagne de pub avec une femme sous le niqab et on voit l'œil au beurre noir sous le niqab a eu un retentissement mondial et a fait bouger les choses.
Absolument. Et vous avez, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle dit que ce n'est pas forcément la campagne parce qu'elles sont très humbles. Je veux dire qu'elles n'aime pas l'ostentation, ça c'est propre aussi aux Saoudiens, on n'aime pas faire trop d'éclat. Et elle dit justement, c'est pas grâce à cette communication, cette campagne de communication, mais force est de constater que oui.
C'est ça, mais on sent qu'il y a une conquête de l'image et on sent qu'il y a une conquête de la parole médiatique. Comment ça se passe, Clarence Rodriguez, ce ministère de l'information qui exerce la fourche caudine de la censure est terrible au royaume wahhabi. Sur quoi elle se porte en matière de féminisme, de droits des femmes, de féminité? Sur quoi ça tombe?
Alors, ça, c'est une image qu'on a aussi de l'extérieur. Mmh. qui est parfois erronée. Mm-hmm. Parce qu'en fait, vous avez pas mal de femmes qui sont présentatrices d'émissions avec le hijab et non mm-hmm. pas le niqab. Alors l'hijab, vous savez, c'est le voile, mais elles sont pas forcément, elles n'ont pas le niqab. Mm-hmm. Voilà. Et ce sont des femmes qui participent à des émissions. Elles sont de plus en plus nombreuses. Vous avez
en
même une rédactrice en chef.
Beaucoup qui est... évolué le paysage médiatique.
Moi, franchement, en 10 ans, j'ai pu voir ce pays évoluer. Mm-hmm. Encore une fois, c'est pas à l'aune de nous, occidentaux, avec nos préjugés. Parce que ça aussi, hein, on a pas mal de préjugés, comme j'en avais aussi quand je suis arrivée dans ce pays. Mais il faut savoir que ces femmes occupent petit à petit, si vous voulez, les espaces, également de la presse. Mm-hmm. Vous avez une rédactrice en chef qui est à Jeddah, qui est rédactrice en chef de Saudi Gazette. Mm-hmm. Alors ces femmes-là, elles sont très discrètes, mais elles font un travail remarquable, y compris dans la presse. Vous avez des journalistes de la presse écrite, et elles ne sont pas pour autant, si vous voulez, alors censurées. Il y a de la censure, bien mm-hmm. évidemment, on ne va pas se leurrer, mais je veux dire, elles peuvent s'exprimer, et même, je vais vous dire, les hommes, les éditorialistes, moi j'ai vu des papiers, je me suis dit, mais comment se fait-il que cet éditorialiste ne soit pas censuré ? Alors peut-être que ça avantage aussi peut-être une frange aussi des autorités saoudiennes, ça aussi, vous voyez. Mais c'est pas aussi tranchant qu'on voudrait
figures télévisuelles, dans les stars de la télévision, mmh. là aussi, il y a des femmes qui font changer petit à petit la donne et les lignes.
Alors petit à petit, parce que n'oublions pas, c'est quand même une société profondément conservatrice. Mm-hmm. Et ils ne sont pas comme nous. Nous, on a des stars, des vedettes, etc. Mm-hmm. Là-bas, ce sont des vedettes entre guillemets, si vous voulez, mais c'est pas aussi ostentatoire, encore une fois, qu'en Occident ou que partout ailleurs dans toutes les chaînes ou radios de France et de Navarre, quoi, en fait.
Merci beaucoup, Clarence Rodriguez. Votre livre donc est sorti aux éditions First, hein, sur ces paroles de femmes, et votre film est diffusé sur France 5 à 21h45. Moi, je vous retrouve demain matin à 6h40. 6h50 même plutôt, 6h52 pour une nouvelle semaine d'Instant Télé, quoi regarder le soir quand on rentre chez soi à la maison, et à 9h40 pour notre émission Média. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour Renaud Duvic.
Bonjour
Sonia. Ça va bien?
Mais oui, ça va bien. Dans un jour en France, ce matin, les enseignements interdisciplinaires au cœur de la réforme du collège, est-ce que c'est un gadget ou une vraie réforme? Vous savez, plusieurs profs réunis autour d'un mm-hmm. même projet, quel moyen pour cette réforme? C'est notre sujet du jour. Vos questions, interventions 01 45 24 7000 et un jour en France à radiofrance.com.
Quoi, ça veut dire que les profs ont séché l'école pour venir autour du micro de France Inter?
Et surprise.
Bref, c'est un jour en France et c'est juste après les infos.